Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce jeudi 17 avril. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et rencontre avec le ministre français Thani Mohamed Soeili, qui était à Perth pour la conférence sur un appel mondial pour protéger nos océans. Et au sommaire du journal de ce jeudi, les questions politiques du logement et de sécurité nationale ont dominé le deuxième débat entre le Premier ministre Anthony Albanese et le chef de l'opposition Pete Dutton, débat qui s'est tenu hier mercredi soir à Sydney. La coalition supprimerait le programme gratuit de TAFE du Parti travailliste si elle était élue, suscitant des inquiétudes chez certains experts qui estiment que cela aggraverait la pénurie dans le secteur de la construction et de logement en Australie. La Reserve Bank se dit ouverte à l'idée de nouvelles baisses de taux d'intérêt en mai. Les questions politiques du logement et de sécurité nationale ont dominé le deuxième débat entre le Premier ministre Anthony Albanese et le chef de l'opposition Pete Dutton, un débat qui s'est tenu hier à Sydney. L'accessibilité au logement en particulier a été un enjeu clé de la campagne, les deux parties ayant récemment ciblé des politiques majeures en faveur des primo-accédants. Au cours de ce débat d'une heure, Pete Dutton a affirmé que l'économie australienne s'était détériorée au cours des trois dernières années du gouvernement travailliste. Anthony Albanese a quant à lui nié que le gouvernement ait modélisé les effets de la suppression du système de negative gearing sur les prix de l'immobilier, malgré les informations selon lesquelles le Trésor aurait fourni des informations sur le sujet. Le chef de l'opposition, Pete Dutton, affirme avoir commis une erreur en laissant entendre que le président indonésien avait annoncé publiquement une demande russe visant à baser ses avions de combat dans la province de Papouasie. Pete Dutton a fait cette concession hier soir lors du débat, mais il maintient que le Premier ministre aurait dû être informé de toute demande.
Admit that that what we got from the Indonesian authorities in the reports, and the Prime Minister commented on these reports yesterday as well, was that the sources inside the Prabowo government confirmed that that was the case. Now, what we've seen in the last 12 hours or so is that the Russian envoy to Indonesia has confirmed that there have been discussions, and obviously there is a concerning closeness in that relationship.
Anthony Albanese a quant à lui déclaré qu'il était extraordinaire que l'homme en lice pour le poste de Premier ministre émette de tels commentaires. Il a ajouté que cela démontrait le manque de compréhension de Pete Dutton en matière de diplomatie.
And the idea that you just throw out these comments is just extraordinary. And the fact that we just saw a double down on it as if there's nothing to see here. Just shows that there's no understanding of the need for diplomacy.
Le Premier ministre Anthony Albanese a présenté ses plans pour améliorer la situation des Australiens des Premières Nations lors du deuxième débat. L'animateur David Spears a souligné plusieurs disparités entre les Australiens autochtones et non autochtones lors du débat, notamment les taux de suicide élevés chez les jeunes autochtones. Le Premier ministre a répondu qu'aucun des deux camps n'avait fait suffisamment pour les communautés des Premières Nations. Il a déclaré accepter le résultat du référendum The Voice lorsqu'on lui a demandé s'il avait abandonné le processus proposé dans la déclaration d'Uluru et que le Parti travailliste se concentrait désormais sur l'amélioration de la situation économique.
So we have a series of programs. Firstly, taking what was essentially a work for the dole scheme, creating real jobs with real training and real outcomes. There's something like 40,000 Indigenous people, for example, have benefited from free TAFE. We're putting additional funds into health, particularly areas like dialysis. We have a 10-year program on remote housing, on education. We are pumping record funding into schools.
Pour sa part, le chef de l'opposition, Peter Dutton, a souligné la promesse de la coalition de procéder à un audit des dépenses consacrées au programme autochtones, affirmant que les fonds pourraient être mieux utilisés. Il affirme que des améliorations peuvent être apportées dans des domaines comme l'éducation, notamment en ce qui concerne la prestation des programmes aux communautés. Le prix moyen d'un logement en Australie a atteint le million de dollars dans la plupart des capitales et les grandes villes. Le rapport de Domain sur les prix de l'immobilier de mars a confirmé que la dernière ville à atteindre la médiane du million de dollars est Adélaïde, rejoignant ainsi Sydney, Melbourne, Brisbane et Canberra. Les logements les plus chers se trouvent en moyenne à Sydney, où le prix moyen atteint la somme extraordinaire de 1,7 million de dollars. Canberra, quant à elle, est la meilleure option pour les locataires, enregistrant la plus faible hausse de loyer de toutes les capitales au premier trimestre de 2025. La coalition supprimerait le programme gratuit de TAFE du Parti travailliste si elle était élue, suscitant des inquiétudes chez certains experts qui estiment que cela aggraverait la pénurie dans le secteur de la construction et de logement en Australie. Cette décision intervient alors que les médias ont demandé au chef de l'opposition s'il soutiendrait ce projet gratuit de TAFE s'il était élu, et ceci après la diffusion d'une vidéo de la députée libérale Sarah Henderson déclarant que la politique des programmes de TAFE, des programmes gratuits, ne fonctionnait tout simplement pas. Peter Dutton affirme que le Parti libéral ne soutient pas la politique du gouvernement travailliste concernant ce programme de TAFE, la coalition affirmant qu'elle est mal conçue et mal ciblée. La sénatrice libérale Jane Hume a déclaré sur ABC Breakfast que la politique du Parti travailliste ne parvient pas à solutionner les faibles taux de réussite des cours de TAFE. La coalition s'est donc engagée à créer un nouveau réseau national d'établissements techniques en Australie si elle est élue en mai. L'opposition a promis d'investir 260 millions de dollars pour créer 12 établissements au cours de son premier mandat, dans le cadre de son engagement à porter le nombre d'apprentis et de stagiaires à plus de 400 000 personnes. Susan Lee, porte-parole de la coalition pour les compétences et la formation, rejette l'idée selon laquelle, je cite, « si vous n'avez pas réussi à l'université, vous n'avez pas réussi dans la vie ». Les établissements techniques sont des établissements spécialisés axés sur les compétences où les étudiants suivent un apprentissage ou un stage en milieu scolaire, ainsi que des cours de formation académique, informatique et commerciale menant à un certificat de fin d'études. La Reserve Bank est ouverte à de nouvelles baisses de taux d'intérêt en mai. Le compte rendu de la réunion d'avril du conseil d'administration suggère que les membres considèrent le mois de mai comme une période opportune pour réexaminer la politique monétaire. Cette décision intervient alors que ANZ a rejoint les quatre grandes banques en baissant les taux d'intérêt de ses comptes à terme. Dr Christian Baylis, fondateur de Fort Lake Asset Management, a déclaré sur Channel 7 que le moment choisi par la RBA pour envisager cette mesure s'explique par la mise à jour des prévisions nationales et l'analyse des effets des droits de douane sur l'économie australienne.
But then on the other hand, the chaos is actually leading to everyone just doing nothing and sitting on their hands. And that hits global growth, that hits basically revenues, and that means economies can go into recession. So you've got this to-ing and fro-ing going on between those two dimensions. And ultimately, the RBA has to make a decision on which one's going to be the stronger, have the stronger pulse on inflation. So that's the challenge that they've got.
L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, affirme que les droits de douane imposés par Donald Trump l'ont convaincu de revoir à la baisse les prévisions d'expansion des échanges commerciaux. Dans un nouveau rapport, l'OMC prévoit une baisse de 1,5% si le président américain maintient ses droits de douane les plus élevés en raison de l'incertitude créée par ces mesures. L'économiste en chef de l'OMC, Ralph Ossa, estime que la baisse devrait être particulièrement marquée en Amérique du Nord.
Combined contribution of other regions, Africa, the Commonwealth of Independent States, the Middle East and South America, also declined somewhat but remains positive. An important driving force behind these changes is the decoupling between China and the United States, resulting from tariffs that now exceed 100%.
L'ABC en Australie accueillera la professeure Jackie Huggins comme une aînée des Premières Nations en résidence suite à des signalements de racisme au sein de l'organisation. Le rapport indépendant « Écoutez bien, agissez fermement » commandé par l'ABC et publié en octobre dernier a révélé des cas de racisme allant de l'exclusion des membres du personnel d'opportunités professionnelles en raison d'un accent non anglophone à des confusions sur l'identité de personnes de même origine culturelle. L'étude a formulé 15 recommandations visant à améliorer les systèmes, les processus et le soutien de l'ABC aux membres du personnel des Premières Nations et issus de la diversité culturelle. Le directeur sortant de l'ABC, David Anderson, a présenté ses excuses aux membres du personnel actuel et ancien qui ont été victimes de comportements racistes et de préjudices dans le passé suite à la publication du rapport dirigé par Dr. Terry Jenke. Alors qu'elle prend ses fonctions, la professeure Huggins indique avoir déjà rencontré la direction et le personnel et décrit un problème qu'elle appelle, je cite, la charge coloniale.
And certainly if you don't have the mass, it can be much more difficult. If there's one or three people working there, you carry that. You carry your history of your people and the circumstances by which, you know, all this disparity happens in our communities, and I guess you need that armor to have that support and look after one another.
La France a annoncé l'expulsion de 12 membres du personnel diplomatique et consulaire algérien et le retrait de son ambassadeur de l'ancienne colonie française. Cette décision intervient au lendemain d'une décision similaire de l'Algérie qui a expulsé 12 responsables français suite à l'arrestation d'un diplomate algérien en France. Les relations entre l'Algérie et la France se sont fortement détériorées ces derniers mois après la reconnaissance par la France du Sahara occidental et l'arrestation par l'Algérie d'un romancier binational pour atteinte à la sécurité nationale. L'administration Trump a gelé plus de 2 milliards de dollars de subventions et 60 millions de dollars de contrats avec l'université Harvard. Cette décision fait suite au refus de Harvard d'accepter de nouvelles conditions pour les subventions accordées par le gouvernement américain qui auraient inclus le signalement des étudiants considérés comme, je cite, « hostiles aux valeurs américaines » et le recours à un organisme externe agréé par le gouvernement pour auditer les programmes et les départements. La professeure de droit Vina Double de l'Association américaine des professeurs d'université estime que cette décision témoigne d'une tentative de répression de la dissidence universitaire.
I don't think that there is necessarily a grand plan that Donald Trump has to destroy higher education. But I do think that it is an instinct of leaders who have authoritarian tendencies to want to get rid of dissent and critique. And so much dissent and critique historically comes out of college campuses.
Un cyclone au large de la côte ouest de l'Australie s'est renforcé et est passé à la catégorie 4 en se dirigeant vers les communautés de la région de Kimberley. Le cyclone tropical Errol se trouve actuellement à environ 500 km au nord-ouest de l'Australie occidentale. Il s'est intensifié pendant la nuit, passant d'un système de catégorie 2 à un système de catégorie 3 et a brusquement tourné vers la côte. Une alerte cyclone Nick a été émise pour la côte de Kimberley, de Broome à Coorie Bay, y compris Cap Lévesque et Derby, pour les prochaines 48 heures. Angus Hines, porte-parole du Bureau de la météo, indique que les impacts les plus importants se feront sentir pendant le week-end de Pâques.
Conditions really will ramp up for the Kimberley in the north of WA during Good Friday as Errol gets closer to the coastline. Errol is likely to drop down through the category numbers on Friday, but it's still expected to bring strong to damaging winds, heavy rain, thunderstorms from Friday afternoon through until Saturday.
Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 27 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 29. Hobart, 22. Canberra, 24. Sydney, 24. Brisbane, 28. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 30 degrés. Voilà, fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Écoutez le programme en français. Le journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord la Ligue des Champions, les quarts de finale retour hier, le Real Madrid battu par Arsenal 2-1. Éliminé donc de la compétition. Écoutez les commentaires de RFI en live à la fin du match.
Le grand Real, le tenant du titre, sorti en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est une désillusion. Les sifflets, évidemment, du public madrilène qui quitte à vitesse grand V les travées de son enceinte mythique. La remontada n'a pas eu lieu. On va pas parler de démontada non plus,
non,
ou
non.
De
descentada.
C'est une petite descentada, oui.
Ouais, c'est assez historique puisque le Real n'avait plus été éliminé en quart de finale depuis 2004.
Et Monaco.
21 ans par Monaco. À ce stade de la compétition, il passe 33 fois sur 39. Donc là, bon, il reste à 33 sur 40. Donc c'est un petit peu une petite révolution. Et puis surtout, dans la qualité du jeu, je le répète, il y a beaucoup de questionnements à avoir du côté du centre d'entraînement du Real Madrid.
Et puis Arsenal qui retrouve le dernier carré de la Ligue des Champions. Il me semble que la dernière fois,
2009.
Ça devait être en 2008-2009. Donc c'est ça aussi, c'est considérable. Hein. C'est un retour... dans le Gotha européen qui fuyait cette équipe un peu loseuse entre guillemets depuis longtemps.
Il y a eu un vrai coup de moyen dans les années 2010.
Oui, et là et on voilà retrouve un Arsenal qui a mûri doucement sous la houlette d'Arteta et qui est enfin un bon compromis entre exigence et efficacité.
Bon, on connaît maintenant le carré final de cette édition 2024-2025 de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va donc affronter Arsenal qui vient d'éliminer le Real Madrid tenant du titre, victoire 2-1 du côté du Santiago Bernabéu. L'autre demi-finale, ce sera l'Inter de Milan face au FC Barcelone. Messieurs, on a eu l'impression que c'est le Real qui avait gagné 3-0 à l'aller, qui était en gestion pendant plus d'une heure.
Oui, c'est sûr que On avait l'impression qu'ils défendaient leur résultat du match aller. À un moment, ça a manqué de percussion, ça a manqué beaucoup d'ingrédients. On a fait un peu une soupe mauvaise ce soir du côté du Real.
Thomas et Pierre, vous surveillerez un petit peu les supporters d'Arsenal pour voir s'ils font pas trop de bêtises dans les rues de Madrid. Merci beaucoup, messieurs, pour nous avoir fait vivre ce match, cette qualification d'Arsenal pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Dans l'autre match d'hier, l'Inter Milan se qualifie aux dépens du Bayern Munich malgré le nul de but partout. Mardi, Aston Villa s'est imposé contre le Paris Saint-Germain à 3-2, mais le Paris Saint-Germain se qualifie au score cumulé pour les demi-finales. Et puis, le Borussia Dortmund s'est imposé contre le FC Barcelone 3-1, mais le FC Barcelone se qualifie, comme nous l'explique Antoine Grenier, pour RFI.
Une quatrième qualification en 6 ans pour le dernier carré, obtenue dans la douleur avec une défaite 3-2 sur le terrain d'Aston Villa. L'avantage acquis à l'aller et même au début du match retour avec un 2-0 en faveur des Parisiens après une demi-heure. Tout ça a failli ne pas suffire. Les joueurs de Luis Enrique se sont fait peur et pour le latéral Achraf Hakimi, auteur de l'ouverture du score, il va falloir faire un effort là-dessus.
Ouais, je pense que ça voit le travail que Paris Saint-Germain, que le club peut faire. On a changé beaucoup depuis quel coach il est venu. Ça voit avec les résultats et on est content de jouer en deuxième demi-finale ensuite. Comme on sait, on a joué la première mi-temps. C'est pas possible qu'une équipe comme nous, comme vous le gagnez la Champions League, qu'on commence la deuxième mi-temps avec deux buts comme ça vite. Et on devait prendre ça, on devait prendre un petit peu plus de responsabilités.
Achraf Hakimi avec Cédric De Oliveira, Paris qui se rassure un petit peu en se disant que dans l'autre quart de finale retour, Barcelone aussi a souffert en s'inclinant 3-1 face au Borussia Dortmund. Auteur d'un triplé, Serou Girassi a fait douter le Barça.
En Angleterre, Newcastle a écrasé Crystal Palace 5-0, signant ainsi sa deuxième victoire en 4 jours en se hissant à la 3e place de la Premier League. En Angleterre, Newcastle a désormais remporté 6 matchs consécutifs. Et puis, un doublé de la star des Matildas, Caitlin Ford, a permis à Arsenal de réduire l'écart dans la course au titre de la Super League féminine en s'imposant 5-1 face à Leicester City. Ford a inscrit un doublé dès les 31 premières minutes, permettant aux Gunners de s'imposer. Cette victoire permet à Arsenal de revenir à 3 points du leader Chelsea, qui compte un match de retard. En Afrique, les Maliens se sont imposés 2-0 contre le Burkina Faso mardi et filent en finale de la CAN des moins de 17 ans. Dans la deuxième rencontre du jour, les Marocains ont obtenu leur qualification contre la Côte d'Ivoire. Antoine Grenier, RFI.
Aiglonais vainqueur du Burkina Faso, 2-0 en demi. Ibrahim Diakité, le milieu de terrain, savourait la victoire, mais pense déjà à la finale de dimanche.
Ouais, c'était un match difficile. Tous les matchs sont difficiles, mais on est très content de se qualifier aujourd'hui, comme tous les autres matchs. On a pu se qualifier, on est en finale. On va bien jouer et prendre la Coupe, Inch'Allah.
Ibrahim Diakité avec François Imfer Kataji. En finale, les Maliens affronteront le Maroc, vainqueur au tir au but de la Côte d'Ivoire.
Le championnat de flag foot. Le flag foot, c'est une discipline sportive dérivée du football américain. Christophe Diremzian et Antoine Grenier pour RFI nous expliquent tout ça.
Ajouté au programme olympique en octobre 2023, le flag football avait besoin d'un rendez-vous fédérateur en Afrique pour y accélérer son implantation. L'Égypte, où la pratique attire de plus en plus, servira donc de première vitrine à un sport simple et accessible au continent, rappelle Pierre Trochet, le président de la Fédération internationale de football américain.
Le fait de pouvoir jouer à l'intérieur, en extérieur, d'avoir un nombre de joueurs plus limité, 10 à 12 joueurs sur le roster, 5 sur le terrain, et puis les règles du jeu, 4 tentatives pour le milieu, 4 tentatives pour les marquer, et je vous ai expliqué 50% des règles en 30 secondes. Et en plus, on vient y rajouter une dimension paritaire et inclusive pour tous les publics et dans tous les événements qui est fantastique.
Pour compléter ce championnat, des tournois de jeunes et des séances de détection mettront en lumière le programme conjoint de la NFL et de l'IFAF de structuration sur le long terme, formation d'encadrants comprises. Pierre Trochet.
On vient de clôturer un camp de développement à Accra au Ghana avec une 50aine de participants de toute l'Afrique. Pour les entraîneurs d'équipe nationale et les arbitres qui pourront officier à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on a un élément, je veux faire partie moi de l'équipe nationale, je veux gagner des médailles, mais on supporte nos fédérations en Afrique, entre compétitions, la structure, la logistique, on est bien évidemment là pour les soutenir toute l'année.
Même si le flag football perce essentiellement dans les pays anglophones, plusieurs nations francophones auraient déjà manifesté leur intérêt pour cette CAN, qualificative pour le Mondial 2026, une compétition à laquelle seul le Cameroun a déjà participé pour l'Afrique l'an passé.
Et ce premier championnat d'Afrique de flag football, ça sera au Caire les 20 et 21 juin prochains.
Un mot de basket avec le championnat féminin WNBA et ce focus sur Dominique Malonga. Antoine Grenier pour RFI.
La jeune française draftée en deuxième position par le Storm de Seattle, la franchise WNBA, le championnat féminin nord-américain. La native de Yaoundé, fille d'une ancienne internationale camerounaise et d'un papa congolais, veut porter haut les couleurs françaises et africaines dans le meilleur championnat du monde.
Forcément, déjà, j'en suis très contente parce que ça montre qu'il y a énormément de talents là-bas aussi. On parle beaucoup des talents français, mais il faut aussi qu'on parle des talents ici d'Afrique. Aujourd'hui, ça montre qu'il y a des perles à développer là-bas et que c'est pas forcément facile tout le temps à cause du manque d'infrastructures, à cause du manque de formateurs, à cause de, voilà, il y a plein de manques à ce niveau-là. Et c'est vraiment quelque chose que je veux souligner parce que il y en a tellement qui n'ont pas forcément eu l'opportunité que j'ai eue ou que, par exemple, Ignacy, qui était présent à ma draft hier, a eu aussi pour finalement avoir la chance de venir ici et se développer. Donc ça montre que c'est un noyau, il y a un noyau au Cameroun où je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose si on y met les moyens, si on change certaines choses. Et je pense aussi que l'évolution de nous, athlètes camerounais, ici aux États-Unis ou même à l'international, ça doit aussi faire en sorte que la donne change finalement et que nous aussi soyons capables de rentrer là-bas et d'essayer aussi à notre manière de mettre notre patte un peu pour que les choses puissent changer.
Dominique Malonga avec Victor Missistrano, l'international française qui débutera la saison de WNBA le 16 mai prochain.
Et un mot sur le championnat des messieurs en NBA avec Antoine Grenier pour RFI.
Le Magic d'Orlando, large vainqueur des Hawks d'Atlanta 120-95, de quoi permettre aux coéquipiers de Cole Anthony de se qualifier pour le premier tour des playoffs NBA où ils affronteront le champion en titre, le Celtic de Boston. Autre qualifié pour la phase finale, les Golden State Warriors qui ont dominé les Grizzlies de Memphis 121-116. En playoffs, Steve Curry et Jimmy Butler croiseront le fer avec les Rockets de Houston.
Pour terminer, quelques nouvelles sportives en bref avec Diane Berger et Sadou Diouf pour RFI.
Football gabonais est en deuil. L'international Aaron Boupenza est décédé aujourd'hui.
Celui qui évolue en Chine cette saison a perdu la vie tragiquement en chutant du 11e étage d'un immeuble dans des circonstances encore floues. Les hommages sont unanimes sur les réseaux sociaux de la part des joueurs des Panthères, à l'instar de Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine. L'ancien des Girondins de Bordeaux avait 28 ans.
Un mot de tennis avec l'ATP 500 de Barcelone. Ça passe pour le numéro 1 français Arthur Fils.
Le 14e mondial s'est qualifié sans trop de difficultés pour les quarts de finale du tournoi en battant l'Espagnol Pedro Martinez en 2-7, 6-3, 6-2. Son prochain adversaire, le Grec Stefano Tsitsipas, entend dire du lourd.
On finit avec du tennis de table, grosse désillusion pour Félix Lebrun.
Le petit frère d'Alexis ne participera pas au prochain tableau final de la Coupe du Monde de Ping en Chine. Il a concédé le nul en 4-7 face à Yi Xing Feng. Pas de titre supplémentaire pour l'une des pépites du tennis de table français.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Et on part maintenant à la rencontre du ministre français, le ministre délégué chargé des partenariats internationaux et de la francophonie. Il était à Perth récemment pour la conférence de la protection des espaces marins dans le cadre du forum de l'océan Indien.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Bien aujourd'hui, dans le programme en français, on a l'énorme plaisir d'avoir le ministre délégué chargé à la francophonie et partenariats internationaux auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un long titre. C'est monsieur Thani Mohamed Swalehli. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Vous êtes à Perth, vous êtes sur le chemin de retour à Paris. Vous avez passé quelques jours chez nous en Australie. Parlez-nous de ce qui s'est passé à Perth, de cette conférence qui a eu lieu et de cette importance donc de cette conférence ces derniers jours à Perth.
Alors, c'est une conférence intitulée « En route vers l'UNOC », parce que d'ici quelques semaines, du 9 au 13 juin, la France aura l'honneur d'organiser la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Donc, je suis venu ici à Perth pour préparer cet événement très important et sensibiliser sur la participation parce que à l'occasion de ce sommet nous allons vraiment nous souhaitons faire un pas pour la protection de nos océans et de la biodiversité marine. D'ici la conférence, nous souhaitons que le maximum de pays aient ratifié le traité dit BBNJ. C'est un traité pour la protection de notre biodiversité marine.
Et vous avez un chiffre, je crois, à 60. Hein.
Il vous faut 60 pays devront l'avoir ratifié pour qu'il commence à être effectif, à s'appliquer.
L'Australie dans tout ça, parce que c'est loin de la France, mais c'est un pays qui est central. Quand on réfléchit un peu deux minutes en géographie, c'est un pays qui a des bordures avec l'océan, les océans Indien et l'océan Pacifique, qui a vraiment un pied des deux côtés des océans qui sont clés et qui sont très impactés par ce réchauffement climatique.
L'Australie n'est pas si loin que ça, parce que du côté de l'océan Indien, l'Australie est limitrophe de Mayotte et de La Réunion, qui sont deux départements français dans l'océan Indien. Et puis, de l'autre côté, dans le Pacifique, vous avez également tous les territoires français de cet océan. L'Australie est une illustration de l'impact environnemental. L'Australie est l'un de ces exemples qui subissent d'ores et déjà, comme nos territoires d'outre-mer, les impacts du changement climatique, les impacts des catastrophes naturelles. Vous le savez, Mayotte et La Réunion ont été frappées récemment par de cyclones violents. Et ce forum UNOC 3 va permettre justement de partager les expériences, de partager les situations, les vécus, pour savoir comment, collectivement, dans les années à venir, nous allons nous armer pour affronter ces défis globaux. Moi-même, à l'occasion de l'UNOC 3, je présiderai un forum composé à la fois des petits États insulaires et de nos territoires d'outre-mer pour mener ces réflexions et dans le but d'être plus résilient dans les années à venir.
Vous êtes satisfait des échanges que vous avez eus? Il y a des représentants de Maurice, vous l'avez dit, il y a des représentants un peu partout dans la région. Vous êtes satisfait de ce qui s'est passé sur ces deux, trois jours à Perth?
C'était un déplacement très important, très intéressant et très fructueux. J'ai été reçu à très haut niveau, à la fois par des parlementaires, par ministres fédéraux, mais aussi par le Premier ministre de Western Australia, en plus de l'accueil des représentants de l'IORA, et notamment le secrétaire général de l'IORA. Oui, c'était un succès. Il y a eu énormément de participation, que ce soit des politiques, mais aussi des scientifiques, des ONG, de la société civile, parce que ce sommet, ça sera l'affaire de tous, les contributions permettront d'avoir des livrables susceptibles de nous aider dans les années à venir, encore une fois, à surmonter ces défis globaux.
D'un point de vue d'un gouvernement comme le gouvernement français, par exemple, pourquoi c'est important de coopérer ? Pourquoi ça semble un peu logique quand on pense à solutionner un problème tous ensemble, mais pourquoi c'est important spécifiquement pour le gouvernement français de lancer, d'être un peu un fer de lance avec le Costa Rica d'ailleurs dans l'organisation de cette UNOC, et de lancer cette coopération ?
Oui, effectivement, la France co-organise ce sommet avec le Costa Rica et donc l'ONU, c'est un sommet de l'ONU. Et dans le monde fragmenté actuel auquel nous assistons, la France est fer de lance pour réunir le maximum de participants. Il y en avait une centaine. J'ai oublié de le dire, parce que ce n'est pas le moment de faire du repli sur soi, c'est tout le contraire. Ces catastrophes, ces défis ne s'arrêtent pas à nos frontières, et c'est un honneur pour la France d'être ce pays, malgré tout ce qui se passe, de continuer à promouvoir le multilatéralisme, parce que ces défis, nous ne pourrons pas les affronter en étant divisés. Et vous l'avez vu récemment, nous avons organisé plusieurs événements. Le dernier en date était le sommet sur la nutrition, qui a été un franc succès. Et bien, de la même manière, nous souhaitons réunir le monde entier pour cette cause très importante de la protection de l'océan, de nos océans et de la biodiversité marine. Et la France est motrice dans ces combats planétaires.
C'est intéressant parce que votre portefeuille, il est sur la francophonie principalement. Et c'est vrai qu'on se rend compte, quand on regarde 5 minutes les cartes du monde, la francophonie, elle est partout. Hein, la francophonie, elle est à travers le monde. Donc la francophonie est impactée, comme toutes les autres parties du monde, par ces réchauffements climatiques.
Alors, la francophonie est l'un des aspects de mon portefeuille. Il y a aussi les partenariats internationaux. Dans la francophonie, vous savez, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, réunit 90 États et gouvernements. C'est énorme. Et dans le cadre des partenariats internationaux, la France a également un rôle à jouer parce que dans le cadre de ce partenariat, nous nous adressons non seulement à l'espace francophone, mais au monde entier, notamment dans le cadre de ce que l'on appelle l'aide au développement ou l'investissement solidaire et durable. Et donc, c'est un rôle que la France a l'honneur de jouer. Et encore une fois, dans les temps actuels, c'est important de le jouer.
Ouais, tout à fait. Et puis bon bah Perth, on va finir là-dessus parce que je sais que vous devez prendre un avion quand même, mais j'ai cru comprendre que votre femme était venue à Perth. Donc maintenant vous pouvez rentrer en France et parler de la ville. Vous avez finalement vu Perth.
Tout à fait. C'est une anecdote que je me plais à raconter parce qu'il y a une vingtaine d'années, lorsque ma femme était étudiante, elle avait fait un séjour à Perth de quelques mois pour ses études. Et depuis, elle ne cesse de me parler de Perth. Et enfin, je vais pouvoir tenir une discussion avec elle sur Perth, qui est effectivement un coin magnifique, avec vraiment des Français, des entreprises françaises qui font du bon travail ici, et également des liens très proche et des liens historiques entre cette région de l'Australie, mais l'Australie en général avec la France. Et ce sont ces liens que je suis venu ici intensifiée dans le cadre de mon déplacement.
Eh bien, monsieur le ministre, merci d'avoir pris un peu de temps justement pour nous parler. Je sais que votre avion vous attend, votre retour en France vous attend. J'espère que tout ça, ça va déboucher sur plein de choses très intéressantes pour la région, et on gardera bien entendu un œil très ouvert et écartillé sur ce qui va se passer en juin. Donc, à Nice, merci.
Merci à vous, à bientôt, au revoir.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et enfin, l'émission, un rappel des titres de ce jeudi 17 avril. Les questions politiques du logement et de sécurité nationale ont dominé le deuxième débat entre le Premier ministre Anthony Albanese et le chef de l'opposition Peter Dutton, un débat qui s'est tenu hier, mercredi soir, à Sydney. La coalition supprimerait le programme gratuit de TAFE du Parti travailliste si elle était élue, suscitant des inquiétudes chez certains experts qui estiment que cela aggraverait la pénurie dans le secteur de la construction et de logement en Australie. Et puis, la Reserve Bank est ouverte à l'idée de nouvelles baisses de taux d'intérêt en mai prochain. Voilà, vous écoutez en ce moment la Symphonie des éclairs, interprétée par Zao de Sagazan. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous le week-end, samedi et dimanche, à partir de 13h. Et le live de mardi prochain. Bel après-midi, à bientôt sur SBS en français.
Des mélodies pourraient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.